Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une intervention sur donc, le sujet 10 choses impossibles avant le petit déjeuner. Introduction sceptique de la parapsychologie.
Qui es-tu ?
Comment ?
Qui es-tu ?
Qui je suis ?
Je suis ton père.
Donc je suis Jean-Michel Abrasseur et je vais un peu vous expliquer comment j'ai été amené à m'intéresser à la parapsychologie. Mais je le ferai après en fait, parce que je voulais commencer par expliquer les 10 choses impossibles avant le petit déjeuner. Parce qu'évidemment, c'était pour caser le mythique 10 des 10 ans de MeZ sur mon slide. Mais évidemment, les 10 choses impossibles, c'est dans Alice au pays des merveilles. Et donc, on peut. Je me vois un peu comme. Voilà, vous êtes les auditeurs et je vais vous parler de parapsychologie, c'est moi. Et donc, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc c'est dans Alice au pays des merveilles, c'est un passage très célèbre, ils disent « Inutile d'essayer, dit Alice qui pourrait croire en l'impossible. Vous péchez selon moi par manque d'entraînement, dit la reine. Quand j'avais votre âge, je m'y exerçais une demi-heure par jour. Eh bien, il m'est arrivé parfois, avant même l'heure du petit déjeuner, de croire jusqu'à six choses impossibles. » Et donc, on est malheureusement après le petit déjeuner, mais donc on va essayer de parler de choses impossibles après le petit déjeuner pour changer. Voilà. C'est très bien. Donc, ce que ma présentation va être, je ne vais pas faire une revue de la littérature parapsychologique parce qu'il y a beaucoup trop de matière. La parapsychologie, c'est un sujet très très vaste, donc, c'est impossible d'être expert dans tous les sujets de la parapsychologie. Mon objectif ici, c'est d'aborder trois choses différentes en fait. La première, c'est de faire un peu une introduction, c'est quoi la parapsychologie, parce que Il y a des sceptiques qui ont des connaissances diverses et variées, on a tous un peu nos dada, donc je sais bien qu'il y a des gens qui sauront ce que c'est la parapsychologie, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Donc je pensais un peu mettre les gens à niveau en abordant un peu les basiques de c'est quoi la parapsychologie, de quoi on parle. La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est la relation entre la parapsychologie et le scepticisme scientifique ou la zététique. Et donc en fait, ma présentation aura plutôt une tonalité un peu philosophique en fait, mais. On va un peu discuter de c'est quoi la zététique et comment elle interagit avec la parapsychologie. On a un peu, vous verrez, moi je pense qu'on a deux communautés de pensée. Les sceptiques c'est une communauté de pensée, les parapsychologues c'est une autre communauté de pensée. Il y a un domaine d'intersection entre les deux, ça ne se passe pas toujours très bien d'ailleurs, mais on verra. Et la troisième chose c'est de donner quelques éléments critiques, mais encore une fois les éléments critiques que je vais donner sont plus de nature philosophique, je pense que nature statistique ou expérimentale, etc. Simplement parce qu'il y a des gens qui le feraient mieux que moi, je pense. Et puis, je veux dire, tout ça est dans l'arrière-fond de ma présentation, évidemment. La conférence de Virginie hier, par exemple, ça s'applique très bien à la parapsychologie. Mais c'était justement parce que c'est pas de ça que je vais parler, quoi. Mais encore une fois, il fallait bien faire un choix. Donc, la parapsychologie, c'est quoi ? La parapsychologie. Ça couvre trois grands champs d'études, des champs de débat. Le premier, c'est le psy. Okay, donc le psy, c'est un concept qui regroupe deux choses, la perception extrasensorielle et la psychokinèse. Perception extrasensorielle, c'est donc prémonition, télépathie, tous ces machins-là. Donc la capacité à extraire de l'information de l'environnement sans interaction directe. Et la psychokinèse, c'est la capacité à léguer. Enfin, vous mettez des allégués dans toutes mes phrases, sinon ça va alourdir le discours. La psychokinèse, c'est la capacité à léguer, d'influencer la matière avec l'esprit. Et ils utilisent ce concept de psy qui regroupe PS et PK. Et ça vient de psychic, en fait, un médium en anglais. Donc ça c'est le psy, vous voyez, c'est écrit avec un I et pas un Y. Hein. C'est pas le psy de la psychologie. Une des critiques que moi j'aime bien faire d'un point de vue philosophique à la parapsychologie, c'est le problème. En fait, un des problèmes fondamentaux avec la parapsychologie, c'est aussi un problème de concept. Quels sont les concepts qu'on utilise ? Et psy, par exemple, c'est un concept qu'on dit athéorique. Il n'y a aucune théorie derrière. Le gars qui a émis le concept de psy, il a dit c'est juste pour se faciliter la vie, quoi. Au lieu de parler tout le temps de psychokinèse et de PK, on va juste appeler tout ça le psy, quoi. C'est un label, c'est une étiquette facile. C'est un raccourci sémantique, mais quand on dit le psy, en fait on ne dit rien, on dit un point d'interrogation, on dit quelque chose qu'on n'a pas su expliquer en fait. Le psy, c'est pas une explication, d'accord, puisque c'est athéorique. Il y a des théories en psy, hein, enfin pas au sens de théorie validée évidemment, mais des hypothèses explicatives, par exemple En parapsychologie, il y a la synchronicité de Jung, par exemple. C'est une théorie explicative. Mais le psy, c'est pas une théorie explicative. Alors ça devient vite problématique, parce que dans l'esprit des gens, quand on communique quand vous lisez les sites web sur la parapsie, vous avez vite l'impression que le psy, c'est une explication. C'est-à-dire, on va vous dire, Uri Geller, il tord les cuillères par la pensée, et comment il le fait? Avec le psy. Mais comme le psy est un concept vide, athérix, c'est une non-explication, en fait. Quand on dit Uri Geller plie la cuillère avec le psy, on dit Uri Geller plie la cuillère avec quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas réussi à identifier. Enfin, c'est ça qu'on dit, quoi. Donc on expliquerait. Un autre problème que j'ai avec le concept de psy, c'est que vous voyez, on regroupe des choses, PES et PK. Mais en admettant que la PES et la PK existent, pourquoi ce serait un même mécanisme? Enfin, évidemment, le psy donne l'impression que c'est un même mécanisme. Comment la voyante sait pour connaître l'avenir? Ben, elle utilise le psy. Et comment Uri Geller fait pour plier les cuillères? Il utilise le psy. Mais on a l'impression qu'on parle d'une seule et même chose. Mais même si on posait que le psy existe, ou qu'une des deux choses existe, qu'il y a un authentique processus paranormal, ça ne veut pas dire qu'en fait ce regroupement conceptuel est quelque chose qui existe dans la nature, quoi. Donc le problème de ça, c'est le problème que j'ai avec le concept de psy, et honnêtement, je ne suis pas le seul à l'avoir, parce qu'il y a des parapsychologues eux-mêmes qui critiquent le concept de psy de la même manière que je viens de le faire. Alors, il y a l'hypothèse survivaliste. L'hypothèse survivaliste, ça, c'est l'idée qu'on pourrait scientifiquement prouver la vie après la mort. Et donc ça, c'est un grand champ de débat, évidemment, en parapsychologie. Et classiquement, il y a eu la grande période du 19e siècle avec la métapsychique, où comment est-ce qu'on essayait de prouver la vie après la mort, mais avec les médiums, en fait. On disait, si les médiums arrivent authentiquement à communiquer avec des morts, avec l'esprit des personnes décédées, ça prouve la vie après la mort. Aujourd'hui, ce champ de débat a permuté, c'est-à-dire qu'il est passé sur les expériences de mort imminente principalement, même s'il y a encore des parapsychologues qui travaillent avec les médiums, en disant, si on arrive à prouver que les expériences de mort imminente ne sont pas explicables par un modèle matérialiste, ça prouve la vie après la mort. Donc évidemment, la position sceptique traditionnelle, enfin la position sceptique, je ne sais pas comment l'appeler, c'est que le psy n'existe pas, et au lieu de l'hypothèse survivaliste, pour les médiums, c'est que les médiums, ça j'en parlerai plus tard, mais pour les expériences de mort, enfin que les médiums, rapidement, je le dirai un mois après, c'est qu'évidemment les médiums utilisent des techniques de mentalisme, lecture à froid, lecture à chaud, trucage, et pour les OBE, les sortir du corps et les expériences de mort imminente, c'est simplement une expérience de mort imminente, on appelle ça l'hypothèse du cerveau mourant. En fait, c'est que l'expérience de mort imminente est une expérience générée par l'état du cerveau en train de mourir. Et donc ensuite, le troisième champ de débat, c'est les expériences inhabituelles. Et c'est comme ça que moi j'en suis venu à m'intéresser à la parapsychologie. Les expériences inhabituelles, c'est donc, ça regroupe toutes sortes d'expériences, particulièrement les enlèvements par les extraterrestres, les sorties du corps, les expériences de mort imminente, les cognitions paranormales. Ça, c'est un concept qui regroupe tout ce qu'on peut avoir d'extraordinaire, que les gens peuvent rapporter, les visions de fantômes, visions maréales, etc. On regroupe tout ça sous expériences inhabituelles. Et je dis que c'est comme ça que moi je suis venu à m'intéresser au sujet, parce que quand j'étais un sceptique plus jeune, mon dada c'était plutôt l'ufologie. Alors si vous m'aviez invité il y a 10 ans, je vous aurais parlé d'OVNI. Avec le temps, j'ai un peu shifté mon centre d'intérêt parce que je trouve que le cadre conceptuel de dire on va parler des expériences inhabituelles qui est proposé par la parapsychologie ou parapsychologie des expériences inhabituelles, on va parler après, est intéressant. C'est-à-dire que au lieu de parler du phénomène OVNI spécifiquement, on dit par exemple les enlèvements par les extraterrestres, c'est un cas particulier d'un ensemble d'expériences. En fait, les enlèvements par les extraterrestres sont très similaires, par exemple, aux visions de fantômes ou de visiteurs de chambres à coucher, ou visions mariales. Et donc, on crée une catégorie qui est les expériences inhabituelles. Et c'est un cadre conceptuel pour penser à propos des enlèvements par les extraterrestres qui est beaucoup plus intéressant selon moi. Et ça, classiquement, comment le clivage entre sceptiques et tenants, c'est simplement que les sceptiques disent on peut expliquer les expériences inhabituelles par des mécanismes socio-psychologiques, tandis que les tenants disent on peut pas, quoi, il faut invoquer d'authentiques processus paranormaux. Voilà. Oui, donc, c'est vrai que le texte est long, mais là, je voulais juste revenir sur comment ma position évolue à propos de la parapsychologie. Au cours des années, C'est-à-dire qu'on peut, on peut cadrer le débat de deux façons différentes en tant que sceptique, je pense. On va voir la position classique, qui est celle de James Randi et d'Henri Brock, je dirais, qui est un peu ce que j'appellerais la position old school, comme ça, d'une certaine génération, c'est de dire la parapsychologie, c'est une pseudo-science et c'est de la foutaise. D'accord ? Tout ce qu'on doit faire, c'est lutter contre la parapsychologie. Donc, par exemple, si quelqu'un veut ouvrir un cours de parapsychologie à l'UNIF, on doit protester contre ça et empêcher l'ouverture des cours de l'UNIF. Il faut bien expliquer aux gens que la parapsychologie, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est la première approche. Et je l'ai eu pendant des années, quoi. Je pense, quand j'étais un sceptique débutant. Et puis, je me suis mis à lire, non pas des parapsychologues, mais des sceptiques spécialisés en parapsychologie. Il n'y en a pas tellement, en fait. Hein. Il y en a 4 ou 5 dans le monde, royalement. Rhea Eyman, qui est le plus... qui est un des plus anciens, il a 80 ans maintenant. Richard Wiseman. Alcock, et puis alors Suzanne Blackmore, Chris French. Bon, c'est les 5 auxquels je pense, quoi. Après ça, il y a des gens qui s'intéressent, mais qui ne sont pas vraiment des universitaires, enfin, qui font pas ça dans un cadre vraiment universitaire. Là, c'était des profs d'UNIF dont je parlais. Et quand on lit Rhea Eyman, dans son ouvrage clé qui s'appelle The Elusive Query, donc je ne sais pas comment on peut le traduire, la recherche élusive, hein, qui est l'ouvrage que les sceptiques citent tout le temps à propos de la critique de la parapsychologie, quand on lit Eyman, il y a un énorme chapitre où il critique l'attitude des sceptiques par rapport à propos de la parapsychologie. Alors c'est très amusant parce que très souvent, en fait, les sceptiques, ils n'ont pas lu le bouquin d'Eyman et ils savent juste que c'est le bon bouquin à citer contre la parapsychologie, mais ils ne se rendent pas compte que Eyman est lui-même très très critique des sceptiques. Et donc voilà, il explique qu'on réagit, en fait, que les scientifiques ont tendance, ou les sceptiques ont tendance à réagir face à des hypothèses, comment ils les appellent, hérétiques, par des tactiques de tueur à gage, etc., par des attaques ad hominem, visant à discréditer l'hypothèse déviante. Et évidemment, il dit, mais discréditer n'est pas la même chose que réfuter. Et donc, de manière très étonnante, Eyman, qui est le critique sceptique de la parapsychologie, passe une bonne partie de son bouquin à critiquer l'attitude sceptique de debunking, en fait. Hein. Donc, l'attitude défendue par Eyman, c'est de dire la parapsychologie, en fait, ça devrait être un sujet comme un autre, ça devrait être un sujet universitaire comme tous les autres. Il n'y a pas de raison de traiter ce sujet-là d'une autre façon. Et la manière dont on doit engager le débat avec les parapsychologues, bah, c'est comme si on débattait avec de n'importe quel débat scientifique, quoi. Il faut passer par le peer review, il faut faire des publications scientifiques, et ça devrait être un débat moins passionnel, finalement. Et donc, en lisant ça, et en lisant les positions des autres, de Richard Wiseman, Chris French, etc., qui sont en fait beaucoup plus nuancées que la plupart des positions qu'on peut lire de sceptiques qui ne connaissent pas grand-chose à la parapsychologie, ma propre position a fini par évoluer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre façon de cadrer le débat que la façon old school, et je pense que qui est plus intéressante, c'est de dire ben, la parapsychologie, c'est un débat, c'est l'étude du paranormal. En fait, l'EZ, ce qu'elle fait, c'est de la parapsychologie. Hein. Soyons clairs. Quand l'EZ teste un médium ou teste un sorcier, c'est de la parapsychologie qu'ils font. Et donc, en fait, l'EZ est en partie une association de parapsychologie, quoi. Et donc, on dit, ben, voilà, les sceptiques, dans la parapsychologie, il y a des gens d'orientation sceptique et des gens d'orientation tenant. Et alors, il y a le débat qui a lieu en interne au sein de la parapsychologie. Mais c'est une autre façon de frayer le débat, quoi. Richard Wiseman, il publie dans des revues de parapsychologie. Il va à des conventions de parapsychologie. C'est un parapsychologue, Richard Wiseman. Quand on met le débat comme ça, on voit que la dynamique peut être très différente. Et la façon d'engager le débat peut être très différente. Slide. Ouais, alors, c'est quoi la parapsychologie? Je continue là-dessus. Alors, la définition que j'aime pas, c'est celle de Wikipédia qui m'énerve. Parapsychologie sur Wikipédia, c'est dire... C'est l'étude pluridisciplinaire au moyen de la méthode expérimentale des phénomènes qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Ces phénomènes sont appelés les phénomènes psy. Pourquoi j'aime pas? Parce que ça parle du psy. En fait, si on définit évidemment la parapsychologie comme étant l'étude du psy, et que les chercheurs qui sont parapsychologues soit posent que le psy existe à cause de la recherche les recherches précédentes en parapsychologie, soit qu'ils posent a priori que le psy existe, bah évidemment, ça exclut par définition les sceptiques du débat, parce que les sceptiques disent que le psy n'existe pas. Donc en fait, cette définition fait qu'effectivement, les sceptiques ne peuvent pas se dire vraiment parapsychologues, puisque finalement les parapsychologues sont obligés d'être des tenants. On définit la parapsychologie comme étant des tenants par définition. Suivant. Autre définition que j'aime beaucoup plus. J'ai amené le bouquin. C'est le manuel pour la fac de. Enfin, donc ils ont une chaire de parapsychologie à Édimbourg, hein, avec Caroline Watt qui y travaille. Donc c'est le manuel qu'ils ont écrit, Caroline Watt et Erwin, hein, manuel d'introduction à la parapsychologie, qui est super bien fait, donc je le conseille. Ils proposent une définition différente qui est la parapsychologie, l'étude scientifique des expériences qui, si elles sont ce qu'elles semblent être, sont en principe au-delà des capacités humaines telles qu'elles sont envisagées par les scientifiques conventionnels. C'est une définition un peu... voilà. Mais pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce qu'elle ne fait pas référence au psy et qu'elle mentionne qu'en fait ce qu'on étudie c'est des expériences. En fait, c'est des expériences inhabituelles. Donc la parapsychologie serait l'étude d'expériences hors du commun. Et elle a introduit le fait qu'il y a des expériences hors du commun qui peuvent être illusoires évidemment. Et donc on laisse la porte ouverte à vos explications prosaïques. Et donc avec une définition pareille, évidemment, là, les sceptiques peuvent tout à fait bien travailler dans ce cadre, il me semble. Slide suivant. Alors, le paranormal. Bon, maintenant que j'ai expliqué la parapsychologie, il faut expliquer le paranormal. C'est encore pire, en fait. Parce que le paranormal, c'est vraiment un concept qui veut rien dire, en fait. C'est encore pire que le psy. Le paranormal, qu'est-ce que c'est? Alors, définition classique, c'est celle qui vient de James Alcock. Parapsychologie, science ou magie, donc qui est un ouvrage sceptique. Il dit qu'un phénomène paranormal est un phénomène qui est inexplicable dans les termes de la science actuelle. Il y a plein de choses qui sont inexplicables dans les termes de la science actuelle, hein. La matière noire en astrophysique, c'est inexplicable dans les termes de la science actuelle, mais personne ne dira que la matière noire c'est paranormal. Donc petit problème déjà. Qui est explicable uniquement par une révision majeure des principes à la base de la science. Les principes à la base de la science. Ouais, en fait, ce à quoi ils pensent, c'est évidemment, par exemple, le principe de cause à effet. Bah, la voyance, si elle est vraie, si on est capable de voir le futur, bah, c'est une violation du principe de cause à effet. Oui, mais le problème, c'est évidemment, Jean-Brigmont vous le raconterait mieux que moi, mais la physique quantique, il n'y a plus de principe de causalité. Et donc... alors, tout ce qu'on raconte en physique quantique, c'est paranormal, quoi. Et puis, le troisième, encore plus fabuleux, je trouve, c'est qu'il n'est pas compatible avec les normes de perception, des croyances et des attentes à propos de la réalité. Ça, c'est ça, j'adore. Hein, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est « est paranormal ce que les gens appellent paranormal ». Si vous pensez que c'est paranormal, alors c'est paranormal. Ça montre qu'en fait, c'est très très difficile. Le mot paranormal, c'est un fourre-tout qui regroupe des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Si on me dit les ovnis, c'est du paranormal, par rapport à la précognition, ces deux phénomènes qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on observe ici. Et en plus, ce qu'on observe avec cette définition, c'est qu'il y a un problème de relativisme culturel. C'est-à-dire que est paranormal ce que votre culture propre définit comme étant le paranormal. Donc, en fonction de la culture dans laquelle vous êtes, eh ben, le paranormal ne sera pas la même chose. Parce qu'évidemment, par exemple, il y a des cultures africaines, enfin les anthropologues étudient ça beaucoup, ben, par exemple, l'existence des esprits n'est même pas questionnée, quoi. Les esprits existent, donc c'est du normal. Chez nous, évidemment, pourquoi est-ce que nous on a un concept de normal versus du non-normal? C'est parce qu'on a eu la science moderne qui est apparue avec Galilée et toute la bande. Et puis alors, évidemment, une fois qu'on a établi une sorte, ce qui était supposé être la normalité, eh ben, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une anormalité par rapport à cette référence. Mais dans une culture pré-scientifique, par exemple, parler de normal et de paranormal, ça n'a même pas de sens pour eux, quoi. D'accord ? Et évidemment, ça veut dire aussi que ce qui est normal et paranormal va évoluer au cours du temps en fonction des savoirs de la science. Par exemple, l'hypnose, l'exemple classique, c'est le mesmérisme avec l'hypnose. Quand Mesmer commence à faire ses expériences, à dire qu'il y a un fluide mesmérique, etc., évidemment, tout le monde dit « Ah, mais c'est paranormal ». Mais maintenant, à l'heure actuelle, l'hypnose, c'est du normal. Donc, c'est vraiment une question de perception par rapport à la culture donnée, quoi. Ouais.
Excuse-moi.
Ouais.
je connais pas trop le sujet, mais tu présentes la définition comme si c'était trois définitions différentes.
Ouais.
Mais en fait, si c'est un ensemble des trois définitions, les exemples que tu donnes vont plus.
Peut-être c'est pas
bon. Ouais, quand tu donnes l'exemple de la matière noire, par exemple, ça marche bien pour la première, mais ça va pas marcher pour celui-là.
Ouais, tu penses qu'on combinera les trois. Ouais, c'est une bonne
question. C'est une question.
Non, non, c'est une très bonne question. J'y ai jamais pensé, mais la raison pour laquelle je l'ai fait, j'y ai pensé dans la manière dont je voulais présenter, c'est parce qu'en fait, celle-ci, c'était une définition antérieure, en fait, qui vient de Tobasic. Et donc, James Alcock a repris la définition de Tobasic, mais il a rajouté deux autres choses avec. Alors, pour moi, naturellement, ça a été séparé en trois, quoi. Mais maintenant,
je vois en fait. Plus aussi comme un phénomène, c'est un phénomène qui remplit ces trois conditions. Parce qu'une nécessité, une révision majeure des principes de la science, c'est pas forcément par un ordre.
Ça n'est pas critique.
Ouais, non, mais de toute façon, de un, vous avez peut-être raison, mais de deux, moi, ce que je disais, c'est que cette définition montre exactement la complexité de définir c'est quoi le paranormal, plus qu'autre chose. Maintenant, si en combinant, vous avez l'impression que ça vous donne une meilleure solution, peut-être, j'en sais rien. Slide suivant. Voilà, quoi, parce que justement, on arrive à Erwin, qui lui est un parapsychologue tenant, mais c'est aussi le plus grand spécialiste de la psychologie de la croyance au paranormal. Dans lui, ce qu'il propose en fait, c'est qu'il dit que le paranormal, c'est l'ensemble des croyances, enfin, dans le sens de, puisqu'il étudie la croyance au paranormal. Le paranormal, c'est toutes les croyances qui sont non acceptées par la science. Donc c'est tout ce que la science dit, les choses sont comme ça, et les gens continuent à dire, non, c'est pas comme ça. Quoi. Voilà une autre définition de ce que serait le paranormal. Bah, évidemment, Erwin dit lui-même que cette définition n'est pas très convaincante. Quoi. Il dit que c'est juste une définition qui lui permet de travailler. Quoi. Parce qu'en fait, le problème que j'essaie de montrer avec le concept de paranormal, c'est que il vient en fait du concept de surnaturel. C'est-à-dire qu'au départ, on parlait du surnaturel, et le concept de surnaturel est beaucoup plus clair. Mais alors le problème, c'est qu'évidemment, si on dit on va naturaliser le surnaturel, et on va appeler ça le paranormal, ça devient nettement plus compliqué en fait. Parce que si on dit, bon, il y a des phénomènes surnaturels qui se produisent, bon, ben voilà, ça inclut la vision mariale, etc. Donc, le surnaturel, c'est quand il y a une intrusion d'une surnature dans la nature, donc un miracle divin, etc. Évidemment, si on parle du surnaturel, qui est un concept beaucoup plus clair, ça ne vaut pas pour le phénomène ovni, par exemple, ou ça ne vaut pas pour des tas de choses qu'on appelle paranormales. Le problème, évidemment, c'est que culturellement, à cause du rejet de la religion qu'on a eu, les gens veulent continuer à parler du surnaturel, mais ils ne veulent plus utiliser le mot surnaturel, alors ils utilisent le mot paranormal à la place. Et je pense que c'est ce glissement de langage qui rend le concept de paranormal particulièrement foireux à utiliser conceptuellement. Ouais. Un peu d'histoire. Donc. Oui, comme je l'ai dit, on peut dire qu'il y a toujours eu un débat, jusqu'à la nuit des temps, évidemment, sur le paranormal. Mais avant la science moderne, comme le paranormal était considéré comme du normal en fonction de la culture donnée, il faut attendre l'apparition de la science moderne pour qu'il y ait des choses qui soient jugées normales anormales par rapport à la normalité. Et donc, le premier grand débat, ça va être le mesmérisme. Et c'est, par exemple, Bertrand Meus qui a écrit sa thèse sur le sujet. On peut voir déjà le prémisse de la dynamique entre sceptique et tenant au niveau du mesmérisme, comment ça se passe. Pourquoi est-ce que Meus et d'autres tenants de l'existence du psy continuent à reviennent sur le mesmérisme? C'est parce qu'ils disent qu'il y a des témoignages, enfin, des anecdotes, si vous voulez, des cas documentés, des cas d'école, où ils utilisent donc l'hypnose, donc le mesmérisme, sur un sujet, et le sujet serait capable d'obtenir des informations de manière paranormale. Et donc il y a un lien entre l'hypnose et la capacité psy, quoi. Mais en même temps, ça montre bien qu'un phénomène paranormal comme le mesmérisme, une fois qu'il a été absorbé par la psychologie, est devenu totalement normal, puisque maintenant on utilise la psychologie, on étudie l'hypnose sans que ça soit un sujet sulfureux à l'heure actuelle. 19e siècle, le spiritualisme. Voilà, c'est les sœurs Fox, donc Hydeville, près de New York. C'est trois sœurs, dont deux plus jeunes, une adolescente, deux petites filles et une adolescente. La maison est supposée hantée et elle commence à entendre des coups dans les murs. Et elles mettent au point une technique de communication, c'est la communication spiritualiste la plus classique. C'est-à-dire que vous posez une question, est-ce que t'es Michael Jackson? Un coup pour oui, deux coups pour non. Et le spiritualisme explose et devient une des plus grandes religions au monde. Au 19e siècle, l'Europe entière fait tourner les tables, les États-Unis aussi. Ça a complètement disparu, c'est vraiment difficile à imaginer maintenant, mais le spiritualisme et le spiritisme aux États-Unis et en Europe, c'était énorme à l'époque, quoi. Et en fait, le spiritualisme est toujours une. Enfin, le spiritisme est toujours. Je vais définir spiritualisme et spiritisme parce que je sens que. Le spiritualisme, c'est la version américaine. Le spiritisme, c'est la version franco-française qui a été créée par Allan Kardec en France, à Paris. Revive, il s'appelle, nous son vrai nom. Et donc, le spiritisme, c'est une codification doctrinaire. Il a écrit une sorte de Bible, quoi, en communiquant avec des médiums, qui est devenue une Bible pour cette religion, le spiritisme. Le spiritualisme, c'est la version américaine. Je crois qu'aux États-Unis, ils ne connaissaient même pas Kardec. Hein. Et c'est purement l'aspect communication avec les médiums. Il n'y a pas cette doctrine spirite d'Alain Kardec. Quoi. Donc en France, on se connaît le spiritisme, puisque forcément, de l'influence d'Alain Kardec. Quoi. Mais aux États-Unis, pas tellement. Bon, pour donner une idée, Alain Kardec, il parle de réincarnation et tout des bazars comme ça. Et donc. C'est donc les deux sœurs Fox qui créent le spiritualisme. C'est la grande mode, tout le monde fait tourner les tables, tout le monde communique avec les esprits, les méthodes s'améliorent, il y a les tables qui commencent à léviter, les médiums commencent à recracher des ectoplasmes. C'était vraiment une époque formidable. Non, on n'en trouve plus des médiums comme ça, non, il y en a encore un peu, mais c'est vrai. Et alors, le coup énorme pour les sceptiques, c'est qu'évidemment, une des deux sœurs Fox confesse savoir frauder. Manque de bol pour les spiritualistes, mais ça n'a, comme toutes les religions, ça n'a eu aucun impact sur le développement du spiritualisme, évidemment. Mais donc, une des deux fillettes explique que les coups dans le mur qu'ils entendaient au départ, avant la mise au point de la technique, c'était elle et leur sœur qui utilisaient une pomme attachée à une ficelle qu'elles lançaient sur le sol, ça fait boum boum boum, ça a fait paniquer la mère. Et ensuite, elles utilisaient une technique pour générer les coups dans les murs. Donc tu poses ta question... est-ce que tu es Michael Jackson? Elles arrivent à contrôler en fait leurs gros orteils pour donner un coup sur le sol. Moi, je ne suis pas illusionniste donc je ne le fais pas, mais il y a des illusionnistes qui vous le font très bien. Et donc elles ont fait des démonstrations de comment elles avaient simulé ça, ce qui est un cas d'école super intéressant, parce que c'est toujours l'argumentation des tenants dans c'est des enfants, elles mentent pas, ça ment pas les enfants. Les enfants, ça peut pas faire un faux élaboré, quoi. Et puis nous, on est des gens intelligents, on se ferait pas avoir si c'était les enfants qui nous mentaient, quoi, tu vois. C'est toujours la même argumentation qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Books.
Et donc, mais évidemment, après sa confession, elle a fait une rétractation, mentionnons-la quand même, parce qu'elle était super alcoolique, et puis comment elle se faisait payer pour confesser qu'elle avait fait une fraude, puis elle s'est fait payer par le corps adverse pour confesser que sa première confession était une fraude. Enfin, bon, elle essayait juste de finir ses fins de mois, la pauvre dame. Mais donc, à partir de 82, il y a un groupe qui se forme. La société Society for Psychical Research, et je dis ça pour tous les anglophiles de la salle, le T ne se prononce pas psychical, pas psychical ou psychical ou je ne sais pas, mais c'est psychical. Et donc c'est, en français, ça serait la Société pour la Recherche Métapsychique, ce qui devrait évoquer, puisqu'on a parfois parlé de la société de l'Institut Métapsychique International. Donc métapsychique, c'est la traduction de psychical en anglais. Donc c'est un groupe pour l'étude des phénomènes psychiques, donc des phénomènes médiumniques en français, et donc du psy. Et alors, ce qui est super intéressant avec la Société for Psychical Research, c'est qu'ils sont plein d'universitaires relativement brillants dedans. Entre autres, dans la version américaine, ils ont... j'ai un plan maintenant. William James, voilà. William James, que tous les psychologues dans la salle devraient connaître. William James est un des fondateurs de la psychologie comme discipline scientifique. Il est aussi le père fondateur de la psychologie de la religion avec son ouvrage les études sur les expériences religieuses. Et en fait, il est aussi très actif de ce côté-là au niveau de la parapsychologie, enfin de l'ancêtre de la parapsychologie. Et donc on a des gens prestigieux. Et ce qui est vraiment intéressant, ça vaut vraiment la peine de lire ce que écrivaient les gens de la Société pour la Recherche de la Psychical Research, parce que en fait, ils démystifient plein de médiums. Ils sont extrêmement critiques, quoi. Évidemment, c'est aussi des tenants, c'est-à-dire qu'ils vont voir des médiums pour essayer de déterminer si les médiums sont authentiques ou non. Mais ce faisant, ils démystifient plein de médiums. Il y a plein de rapports d'enquête de la Société for Psychical Research où ils font vraiment un super boulot de démystification. Entre autres, il y a un document qui a généré un énorme... chiasme, enfin un énorme trou avec la société théosophique, parce que donc, la société théosophique à Abhyar en Inde avec Blavatsky, hein, et Blavatsky prétendait qu'elle était capable de communiquer avec des esprits d'un âge akashique, enfin vous connaissez les délires de la théosophie. J'espère qu'il n'y a aucun théosophe qui m'a compris. Mais elle avait un mur avec où il y avait des boîtes aux lettres dans le mur, c'est vraiment génial. Et de temps en temps, elle ouvrait la boîte aux lettres, il y avait un message d'un de ces êtres supérieurs dans la boîte aux lettres. C'était presque les humains de l'époque, quoi. Et donc, la société théosophique, la société, enfin, c'est à qui qu'elle recherche, envoie un enquêteur, et puis il reste deux jours là-bas, et puis il dit, oh, ben oui, j'ai surpris Blavatsky en train de. Enfin, il y avait un trou dans le mur de l'autre côté, elle allait mettre le message à elle-même, puis la rechercher. Et donc, ils écrivent ce rapport, et évidemment, tous les théosophes ont détesté la société pour la recherche métapsychique à partir de ce moment-là. Et aussi, ils ont eu des problèmes avec les spirites, parce que comme on en parlait l'autre jour, ils défendaient l'idée que. Enfin, il y avait un grand débat parce qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que les médiums communiquaient vraiment avec l'esprit des morts. Donc, je vous ai dit, si vous faites une séance spirite et vous posez des questions un peu pointues, vous invoquez l'esprit de Jules César et vous lui dites « S'il te plaît, parle en latin », et puis le médium commence à parler dans son accent irlandais. Et puis après, on pose une question précise sur l'histoire de Jules César, à quelle date est-ce que tu as fait telle conquête ? Et évidemment, le médium donne une date qui est complètement à côté de la plaque. On se rend rapidement compte que l'hypothèse survivaliste que les médiums communiquent réellement avec les morts ne peut pas être correcte. Et donc, les gars de la Society for Psychical Research disaient « Oui, il y a d'authentiques phénomènes processus paranormaux, phénomènes paranormaux... » Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a vraiment du psy à l'œuvre, mais c'est pas d'authentiques communications avec l'esprit des défunts. Donc le médium, en fait, il utilise la télépathie pour aller lire dans l'esprit de la personne en face de lui. Il utilise le psy pour aller chercher de l'information dans la bibliothèque du coin. Mais il ne communique pas vraiment avec une personne décédée, quoi. Et donc, évidemment, les spirites et les spiritualistes, ils n'étaient aussi pas très contents que les gars de la recherche métapsychique leur disent « Ouais, mais en fait, votre croyance que les médiums communiquent vraiment avec l'esprit des morts, c'est n'importe quoi. » Et donc ils se sont aliénés à cette époque-là, aussi bien les spirites d'un côté que les théosophes, qui étaient vraiment deux grands groupes à l'époque, culturellement parlant. Voilà, et alors ça nous amène à l'époque contemporaine, avec Joseph Bankrin. Donc en fait, à l'époque de la métapsychique classique, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les médiums fraudent tout le temps. Enfin, il y a une fraude généralisée des médiums. Évidemment, les gars de la recherche métapsychique, ils veulent essayer de trouver des vrais médiums, mais c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a tellement de fraude, quoi. Et alors, il y a des débats autour de la question, est-ce qu'un médium authentique, est-ce que ça lui arrive aussi de frauder de temps en temps? Parce que s'il n'est pas en forme ce jour-là, il va frauder pour améliorer sa performance, parce qu'il ne veut pas décevoir son public. Enfin, il y a des gros débats. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Rin... Il en a pas le bol de tout ce débat autour de la fraude des médiums. Il dit on s'en sort pas avec ces médiums, il y a trop de fraude tout le temps. Il faut qu'on se débarrasse de. Enfin, aller observer des médiums en train de faire léviter des tables, c'est pas une bonne méthode, quoi. Et donc il fait un changement paradigmatique. Il dit on va laisser tomber l'étude des médiums parce qu'avec cette histoire de fraude on s'en sort pas. Les médiums, puisqu'ils sont célèbres, qui gagnent leur vie en faisant ça, ils ont une motivation pour tricher évidemment. Donc. C'est le problème, c'est quand on étudie un sujet qui a une motivation à tromper le chercheur, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ce qu'on va faire, c'est prendre des sujets tout venants, qui n'ont pas la motivation de tricher, et on va appliquer la méthode expérimentale inspirée du behaviorisme. Parce que le behaviorisme est vraiment à la mode à l'époque. Et donc là, on passe en labo avec des cartes zener, on montre une carte, vous devez deviner la carte qui est derrière. Il utilise aussi des sujets doués de temps en temps, parce que... ils ont quand même l'idée qu'il y a des sujets qui sont meilleurs aux tâches psychiques que d'autres. Mais évidemment, si vous utilisez méthodologiquement des sujets tout venant, vous prenez vos étudiants en psycho pour faire les tests, ces étudiants en psycho n'ont pas de motivation à essayer de frauder, évidemment. Ils n'ont pas les compétences, parce qu'évidemment, un médium a les compétences pour frauder, puisqu'il fait, c'est son gagne-pain de frauder, donc il le fait tout le temps. Et donc, en prenant des sujets tout venant, ça résout une partie du problème de la fraude. Pas tout, évidemment, mais une partie, quoi. Et donc, on observe un changement paradigmatique. Et une fois qu'on arrive à Rin, c'est là qu'on parle de parapsychologie. Donc, c'est ça la différence entre métapsychique et parapsychologie. Et... ouais, c'est bien comme ça, ouais. Je vais faire un peu de ça. Voilà, donc il y a au niveau du mentalisme, donc c'est la technique des illusions qu'utilisent les illusionnistes pour simuler un don de médium. Enfin, je ne vais pas trop m'attendre là-dessus parce que je pense que la plupart des sceptiques connaissent ça assez bien. Et sinon, il y a d'autres personnes qui pourront présenter ça très bien. La lecture à froid, évidemment, c'est extraire de l'information des gens qu'on ne connaît pas juste en leur parlant. Nicolas, je ne te connais pas, mais est-ce que tu n'aurais pas une personne dans ta famille dont le nom commence par un M ? Ça pourrait être Marcy.
Justement, mon père et ma mère.
Tu vois, je suis super médium. Je ne le savais pas en plus.
Oui.
Donc voilà. Non,
ton père, ça commence par un P.
Non, c'est par un T. Mon père.
Voilà, donc évidemment, c'est que ça, c'est le basique de la technique, mais ça comprend aussi lire les informations corporelles, etc. La lecture à chaud, c'est toutes les techniques qui sont beaucoup plus agressives de recherche d'informations. À l'heure actuelle, si vous êtes un voyant sur le net, ça va être utiliser Google, par exemple. Parce que vous êtes derrière votre Skype, et donc la personne ne voit pas que vous êtes en train de googliser son nom. À l'époque classique des grands médiums, ça pouvait être vous mettez tous les gens dans, par exemple la voyante du coup, enfin la gitane classique, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait sa tente dans une quelque part, et elle mettait une tente où les gens pouvaient attendre, et où on vous faisait attendre pendant la 15 minutes, et puis pendant qu'elle se préparait à faire son show avec sa boule de cristal, elle avait un complice qui écoutait les conversations dans la tente d'attente, à travers le voile de la tente, c'était pas très dur, le complice revenait, il lui disait tout ce qu'il avait entendu, et puis elle pouvait le redire, les noms, enfin tout ce qui avait été mentionné dans la conversation. Et une version plus contemporaine, ça va être avec des micros par exemple, vous pouvez mettre des micros dans une salle d'attente. Enfin, évidemment, les lectures à chaud, il y en a plein, il y a des tas de techniques. Et alors les trucages, ça va être les classiques, comment tordre la cuillère avec ses mains, sans que personne ne voit que c'est avec ses mains, et de faire croire que c'est avec mon esprit que je le fais, comme dans le cas du Rigelet. Voilà quoi, ça dépend des techniques utilisées. Hein. Et donc évidemment, le grand problème de la Society for Psychical Research, c'est d'arriver à exclure toutes ces explications-là pour être certain qu'on est devant un véritable processus paranormal. Ouais. Ça va, tout le monde suit toujours ? Il n'y a pas de questions ? Donc, quand on est maintenant à la parapsychologie contemporaine, il y a deux grandes méthodes pour faire les choses. Il y a la méthode que vous connaissez très bien, qui est de tester les médiums. C'est celle qu'appliquait la Société pour la recherche métaphysique. Bon, il y a un gars qui prétend être capable de faire X ou Y. Et alors, vous lui demandez ce qu'il prétend être capable de faire. Et puis vous mettez des contrôles en place pour tester est-ce qu'il est vraiment capable de faire ce qu'il prétend être capable de faire. Si vous pensez qu'il se trompe juste lui-même, juste mettre un double aveugle, ça suffit. Si vous pensez qu'il utilise des trucages d'illusionnisme, il va falloir mettre en place des stratégies pour l'empêcher d'utiliser ces trucages d'illusionnisme. Ce qui rend... Et alors là, ça devient une sorte de mind game, parce que vous devez deviner à quel point il est doué en tant qu'illusionniste, mais quelle stratégie vous allez devoir. Donc vous devez anticiper le type de trucage qu'il va utiliser, mettre des blocages pour l'empêcher. Lui, il va essayer d'anticiper les blocages que vous allez mettre et de trouver des stratégies pour compenser. Donc, à mon avis, tester un mec comme Uri Geller, c'est pas évident. Et alors, il y a les recherches sur le psy. C'est évidemment celle que j'ai décrite avec Dorine, c'est de dire on va utiliser... On va utiliser des sujets tout venant, de préférence, on va faire avec beaucoup d'essais sur des cartes, sur des jets de dés, etc. Et je pense que quand on veut comprendre le débat entre les parapsychologues tenants et les parapsychologues sceptiques, si vous voulez, il faut bien comprendre que les conceptions même de la science sont très différentes dans les deux groupes. Hein. Le curseur de plausibilité est extrêmement différent dans les deux groupes. Je pense qu'il y a vraiment une confrontation, un choc de vision du monde comme ça. Y compris épistémologique sur la conception de la science. Et traditionnel, enfin classiquement, les sceptiques vont trouver que ça c'est la bonne méthode à faire, et les tenants vont trouver que c'est ça la bonne méthode à faire. Et souvent, je pense que dans les conflits qu'il y a eu avec Limi, c'était vraiment classiquement ça qui s'est produit, c'est-à-dire que le Z disait on veut faire ça, et Limi disait on veut faire ça. Et alors. En fait, moi j'ai tendance à penser que c'est deux méthodologies différentes et qui fonctionnent très bien, enfin qui font des choses différentes, quoi. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, mais. Mais enfin bon, j'ai quand même tendance à privilégier celle-là, mais... L'idée qui repose sur celle-ci aussi, si vous faites avec des sujets doués, c'est de dire, les sujets doués, En fait, les parapsychologues, ils vont dire, bah ouais, c'est vrai que les sujets doués, ils se trompent eux-mêmes, ils savent pas exactement. Si vous dites à un sourcier combien de taux de réussite tu es capable de faire, et qu'il va vous dire, je sais, détecter à 100%, ou à 50%, ou à 20%, en fait, non, c'est clair qu'ils se trompent, quoi. Ça a été établi par la littérature, on le sait tous, quoi. Donc ça sert à rien de tester ça, en fait. Alors ils disent, ouais, mais bah, ça veut pas dire que la sorcellerie ne fonctionne pas, ça veut juste dire que l'estimation que donne le sorcier est fausse. Donc en fait, c'est en fonction des conceptions que le chercheur a à propos du psy, il va concevoir un test qui teste sa conception du psy, les hypothèses que lui n'est pas du psy, et pas ce que le sourcier pense qu'il est capable de faire. Hein ? Ouais ? Voilà, alors ça c'est... je l'ai mis, mais je me suis demandé longtemps comment j'allais l'expliquer, parce que c'est un des aspects que je comprends pas en fait. Parce que donc, je discute beaucoup avec des parapsychologues, hein, entre autres des paranthropologues, mais ça je viendrai expliquer après, parce que je trouve que ce qu'ils font est fascinant. Et au niveau culture sceptique version culture, versus culture parapsychologique, le truc qui m'a vraiment toujours perturbé, c'était l'idée que explaining away, les tenants vont toujours, enfin je l'ai traduit par démystifier, mais ça fonctionne moins bien. Les tenants vont toujours dire que ce que font les sceptiques quand ils testent un sourcier comme le Z l'a fait, c'est pas expliquer le phénomène, c'est l'expliquer au loin, quoi, c'est le démystifier. Mais pour eux, c'est quelque chose de négatif, quoi. Et je crois que c'est un peu un mystère que j'essaie toujours de comprendre. Je pense que dans la vision du monde des gens, dans la conception ici épistémologique, c'est vraiment un problème de qu'est-ce qu'une explication, en fait. Qu'est-ce qu'on considère qu'une explication est. Je vais donner un exemple plus concret. Récemment, donc, il y a eu cette histoire dans un musée avec une statue, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'était une statue qui était en rotation sur elle-même, quoi. Elle tournait toute seule en fonction des jours, en journée, mais pas la nuit. Et ça avait été capturé sur caméra, quoi. Et donc, moi, j'étais sur mon petit groupe de paranthropologues, et puis, ils commencent à me dire, mais ouais, mais en fait, la statue, elle tourne. Et donc, c'est tous des profs d'unis d'anthropologie ou des doctorants en anthropologie. En gros, quoi. Et alors, ils font, mais oui, mais c'est lié à, clairement, au cycle du soleil d'Osiris. Et alors, bon, moi, je mets comme commentaire, vous ne pensez pas que l'explication la plus basique, c'est qu'en fait, la nuit, il n'y a pas de personne qui marche, et la journée, c'est juste les vibrations des pas sur le sol qui fait la rotation de la statue. Et enfin, ouais, probablement, mais ça c'est pas expliqué, mais ça c'est expliqué. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de très, dans la culture des sceptiques versus la culture des tenants en parapsychologie, c'est qu'est-ce qu'on entend par expliquer, quoi. Ouais. Je sais plus, on a commencé à combien de temps de retard, combien de temps j'ai en fait.
Là, il te reste 15 minutes.
15 minutes
15-20 minutes.
Et bien alors, ce sera mon dernier slide. J'en ai encore plein d'autres, mais on ira au slide de conclusion après. J'ai quand même couvert ce qui était le plus important. Les disciplines connexes. En fait, la parapsie, c'est un sujet extrêmement pluridisciplinaire qui a évidemment, de par son, comme le nom l'indique, une relation privilégiée avec la psychologie, puisque RIN s'est calqué sur le behaviorisme, qui est une école de psychologie. Mais il y a des domaines qui interagissent beaucoup avec la parapsychologie. Donc je pense que, en fait, c'est une façon pour moi de dire que je pense que les sceptiques devraient aller. Enfin, c'est vrai que je reviendrai sur cette question-là. Mais la psychologie des expériences inhabituelles, donc là je vais un peu vous donner du vocabulaire, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est tout ça. La psychologie des expériences inhabituelles, bon, on a parlé des expériences inhabituelles, ça a été créé avec James Alcock. Son bouquin Parapsychologie, Science ou Magie, qui est donc un bouquin sceptique, qui dit laissez tomber tout ce qu'on fait les parapsychologues, on va essayer d'expliquer les expériences inhabituelles par la psycho, quoi. Donc c'est vraiment l'approche sceptique. Ça a été un livre révolutionnaire en son temps. Les gens se sont dit, ah mais vrai, en fait, on n'a pas besoin d'invoquer du psy, hein. On pourrait dire, ben oui, en fait, je sais pas, moi, les enlèvements par des extraterrestres, c'est causé par la paralysie du sommeil, par exemple. Et son bouquin ne parle jamais d'expérience inhabituelle, c'est un bouquin qui est sorti l'année d'après, qui était titré Expérience inhabituelle, et je ne me souviens plus des auteurs, parce qu'en fait, le bouquin d'Alcock a eu beaucoup plus d'influence que l'autre. Mais la discipline initiée par Alcock a pris le nom utilisé par l'autre bouquin, parce qu'Alcock, il ne proposait pas de nom, quoi. Et donc, la psychologie des expériences inhabituelles, c'est l'idée, on va expliquer de manière prosaïque, par de la sociopsycho, toutes les expériences inhabituelles. Alors ça, c'est la version simple, mais évidemment, il y a une version plus compliquée qui est que Évidemment, les on peut dire que c'est une tentative de faire rentrer à l'université la parapsychologie sous un autre nom. Donc si vous êtes un parapsychologue, vous savez très bien que vous n'aurez jamais une chaire d'enseignement de parapsychologie parce que ça sent le soufre. Donc vous dites, ah mais je vais enseigner la psychologie des expériences inhabituelles et ça passera vachement mieux. Donc on est un peu dans du rebranding comme ça. Et donc, quand vous lisez, j'ai un super manuel, Anomalistic Psychology, bon c'est le titre en anglais. Hein. Si vous lisez les auteurs, il y a Christopher French qui est un... Il a un laboratoire de psychologie anomalistique à Londres. C'est un sceptique comme nous. Mais tous les autres, c'est des tenants de l'existence du psy, en fait. Hein. C'est tous des parapsychologues. Et ça, c'est un manuel qui a été écrit en Angleterre pour enseigner le A-level, donc le niveau bac. Hein, parce qu'ils veulent créer des chaires de... Enfin, pas des chaires, ils veulent qu'il y ait des baccalauréats psychologie anomalistique pour introduire ces débats sur le paranormal en secondaire. Avec l'idée que justement c'est une super méthode, enfin ça c'est l'idée un peu de l'OZ, hein, que c'est une super méthode pour initier la méthode scientifique et pour donner aussi donner des notions de base de psycho en s'amusant quoi, au lieu de faire de la psycho ennuyeuse, on va parler du paranormal. Mais donc évidemment les parapsychologues d'un côté essayent un peu de récupérer la psychologie animalistique en se disant ben voilà, si on relance le nom, on arrivera plus facilement à faire rentrer les idées parapsy sous ce nom-là. Et inversement, les sceptiques sont très présents dans ce camp-là. Donc il y a des parapsychologues qui vont dire « Ah, mais la psychologie des anomalistiques ou la psychologie des expériences inhabituelles, c'est juste la parapsy pour les sceptiques qui ne veulent pas lire la littérature qui prouve que le psy existe. » Ça, c'est si bon. Alors, il y a les sciences des religions. Moi, c'est un peu par là que je suis venu, parce que j'ai pas expliqué, mais donc j'ai une formation en psychophilo et j'ai une spécialisation en psychologie de la religion. Et en fait, la psychologie de la religion s'intéresse à la psychologie anomalistique ou psychologie des expériences inhabituelles, parce qu'évidemment, très longtemps, ça a été fort tabou de parler du paranormal. Hein. La seule manière dont vous pouvez étudier le paranormal en psycho, encore maintenant, hein, je dirais, c'est de dire « j'étudie pas le paranormal, j'étudie la croyance au paranormal ». Mais surtout pas aborder l'idée est-ce que le paranormal est vrai ou pas, ça vous pouvez pas en parler. Parce qu'on sait tous que c'est de la foutaise, donc on peut pas en parler. Donc ça c'est la version classique. Mais évidemment c'est en train de changer à cause de la psychologie des expériences inhabituelles et des débats. Enfin la parapsychologie est en train de revenir en force, hein, ça j'espère que vous en rendez compte. Et donc maintenant la psycho de la religion est un peu concernée par le débat, parce qu'évidemment si les gens ont des expériences inhabituelles comme des sorties hors du corps, des expériences de mort imminente, vous pensez bien que ça a un impact sur la manière dont apparaissent et se structurent les religions, quoi. Si on peut pas... Jusqu'à présent ils en ont jamais parlé parce que c'était des sujets tabous, mais maintenant qu'apparemment on peut en parler, ils commencent à en parler. Et j'ai mis sur des religions en général parce que c'est anthropologie, sociologie de la religion, etc. Psychologie transpersonnelle, ça c'était un courant psycho sur les expériences de sommet, donc tout ce qui est expérience mystique. Évidemment, les expériences mystiques, la méditation, le yoga et tout ça ont un lien avec le paranormal. La paranthropologie, c'est pas un sujet très nouveau, enfin non, c'est pas un sujet très vieux, ça a été débuté à 2-3 ans, mais je suis ça de très près, parce que je trouve ça fascinant. En fait, la paranthropologie, c'est appliquer l'anthropologie à l'étude du paranormal. La façon dont ils font ça, c'est... vous voyez, si vous allez dans une culture étrangère et que vous dites... vous observez un comportement dans une culture étrangère, je sais pas, en Chine, ils mangent des chats, par exemple, ou des chiens, c'est ça. Ils vont dire... Vous dites, oh, mais non, mais c'est une culture barbare, quoi. Ils ont clairement tort de faire ça, quoi. Évidemment, vous êtes le pire des anthropologues qu'on puisse imaginer, quoi. Bon, mais maintenant, vous arrivez dans une culture étrangère et ils vous disent « Ah, ben moi, en fait, je communique avec l'esprit intel au moyen de ma transmédiumnique. » Et tu te ramènes et tu dis « Ouais, mais en fait, on sait bien que c'est de la foutaise, tout ça. Vous n'êtes pas non plus le pire des anthropologues. » Alors, évidemment, leur approche, c'est de dire... il faut au moins avoir dans l'idée le fait que les savoirs natifs, donc les savoirs des cultures propres, ne sont pas stupides et irrationnels, quoi. C'est une critique aussi de l'idée de la pensée magique. L'Occident, la pensée occidentale est rationnelle. C'est clair qu'on est super rationnel en Occident, mais évidemment, les peuplades primitives, ils n'ont encore rien compris, ils sont dans la pensée magique. Voilà. Et alors, j'ai mis les deux pires enfin. Enfin, au-dessus c'est bien. Bon, la paranthropologie, je trouve que c'est très fascinant, mais évidemment ça peut poser beaucoup de problèmes à un sceptique de lire ça, parce que tu dis, mais non, évidemment que la lecture native est fausse, quoi. On sait très bien que les esprits ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un challenge de les lire. Mais alors, les deux derniers, bon, ça, c'est les trucs les plus farfelus. La chasse aux fantômes, c'est l'idée qu'on puisse aller dans une maison et détecter des fantômes avec les ondes électromagnétiques et des choses dans ce style-là. Évidemment, c'est très à la mode. J'en parle parce que faut pas vraiment. Moi, évidemment, quand je parle de parapsychologie, je parle de la meilleure parapsychologie. Évidemment, si on parle de la chasse aux fantômes, je suis le premier à dire que c'est du grand style n'importe quoi. Et il y a beaucoup de parapsychologues qui disent que c'est du grand style n'importe quoi, hein. Ils se rendent bien compte. Je veux dire, si on comprend comment ça marche. Enfin, la chasse aux fantômes, c'est pas une recherche scientifique sur le paranormal. C'est ce qu'on appelle en sociologie du legend tripping. Hein. C'est les ados qui se font peur en allant dans un endroit hanté. Quoi. Ça n'a rien à voir avec la méthode scientifique. Et la science noétique. Ils incorporent de la parapsychologie en ayant dans leur équipe Sheldrake, Dean Radin, qui sont des noms bien connus, des stars de la parapsychologie tenant. Mais la science noétique, c'est la côte ouest des États-Unis, donc c'est super new age, quoi. C'est un mélange de. On va faire de la parapsie mélangée à du chamanisme et on sera toutes dans des huttes de sudation et on changera la conscience cosmique, quoi. Donc, mais tout le monde va connaître la science noétique maintenant parce que Dan Brown en parle dans son troisième bouquin. Et qu'il va certainement être adopté en film avec Tom Hanks à un moment donné. Donc préparez-vous à tous à débattre sauvagement la science noétique parce que ça arrive. It's coming. Dernier slide. Tout dernier, tu fonces. Ouais.
ça c'était. C'est le moment où tu cours dans le plat et tu tombes. Mm.
Voilà, conclusion. J'ai remis quelques réflexions. L'idée de Ray Hyman, c'est que c'est extrêmement important. Je veux dire, parce que la critique fondamentale de Ray Hyman, c'est que pour critiquer la parapsychologie, les sceptiques de son temps, hein, parce que d'abord Ray Hyman, je le disais, il a 80 ans, enfin, il est toujours actif, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais les sceptiques, en fait, ils ont une stratégie, c'est-à-dire qu'ils prennent le pire de la parapsychologie, ils critiquent ça et ils disent « Ah, on a démystifié la parapsychologie ». Par exemple, allez, moi, juste un exemple, mais Lignon, c'est personne en parapsie. Hein. Je ne l'ai jamais vu cité nulle part. Hein. C'est un illustre inconnu en parapsie. Il n'y a aucune publication scientifique en parapsie qui signe Lignon. Donc, si on démystifie Lignon, on fait du travail local. Mais je veux dire, Lignon, c'est pas le meilleur en parapsie. Quoi. C'est au mieux un vulgarisateur pas très talentueux. Quoi. Et alors
Chez les sceptiques aussi, ça fait bien longtemps que plus personne bosse sur.
Ouais. Non, mais je prenais ça comme exemple caricatural. Hein, mais... De toute façon, ici, c'est une remarque en général sur la communauté sceptique, mais comme je l'expliquais hier, ce que j'aime bien chez le Z, c'est que justement, en fait, du travail du terrain et que vous allez sur. C'est pour ça que j'adhère à l'EZ, quoi, parce que je pense qu'il. Mais c'est une remarque générale sur la communauté sceptique, parce que si on est sur des forums ou sur Facebook, on va vite voir, on attaque vraiment le bas de la crème. Mais, si on veut critiquer la parapsie, il faut critiquer Sheldrake, Dean Radin, Ben, c'est ce qu'on a fait avec Nicolas. C'est ces gens-là, quoi, c'est eux le haut du panier, quoi, il faut pas aller attaquer. Lire la littérature parapsychologique et pas uniquement ce qu'on dit la littérature sceptique. C'est une remarque que font les parapsychologues, mais je pense que c'est très vrai. C'est une tendance naturelle, hein, c'est le biais de confirmation. Mais je crois que ce qui différencie les sceptiques des tenants, c'est pas que nous on n'a pas le biais de confirmation, mais c'est qu'on a conscience qu'on a le biais de confirmation. D'accord ? Donc si on a conscience qu'on a le biais de confirmation, c'est vrai que pour nous c'est facile de lire du Richard Wiseman, du Chris French, parce qu'on est d'accord avec eux. Okay ? Mais il faut lire tous les autres aussi, parce qu'il faut lire ceux avec qui on n'est pas d'accord. C'est vraiment très important. Ouais. Et disons, dans le dernier point, je pense que c'est extrêmement important de publier dans des revues scientifiques, parce qu'évidemment, la parapsychologie, c'est des laboratoires. Il y en a peu, mais il y en a 2-3 des laboratoires de parapsychologie dans le monde. Il y a celui de Rhin aux États-Unis, il y a la chaire Kessler à l'université d'Édimbourg. Bon, maintenant, il va y avoir des chaires de psychologie animalistique qui vont s'ouvrir un peu partout, c'est ma prédiction médiumnique. Mais c'est important de publier dans des revues scientifiques si vous avez les compétences de le faire, quoi. Y compris des revues de parapsychologie. Wiseman a publié plein de trucs dans des revues de parapsychologie parce qu'il engage les parapsychologues sur leur propre terrain, quoi. Publier uniquement dans des revues de sceptiques, bah oui, les sceptiques lisent les revues sceptiques, les parapsychologues lisent les revues de parapsychologie, elles ne se rencontrent jamais, quoi. Un des avantages aussi de la parapsychologie, c'est qu'ils ont des revues scientifiques. Bon, elles ne sont pas bien cotées, parce que par principe, c'est des revues parapsychologiques, donc elles ne sont pas bien cotées. Enfin, c'est un cercle vicieux, évidemment. Mais je veux dire, je ne dis pas les vrais doctorants qui ont des vraies thèses à faire, pas comme moi, mais les gens, les sceptiques qui ont du temps, hein, je crois que débattre les parapsychologues sur leur propre terrain, c'est extrêmement important, quoi. Publier dans leur propre publication. Donc voilà, quoi, on en parlait hier, quand Henri Brock fait son prix défi et puis il publie jamais. Moi je pense que si on fait un prix défi, c'est un problème avec James Randi aussi je pense, mais je pense que c'est très important d'écrire un compte-rendu du protocole et idéalement de publier dans une revue de parapsie, quoi. Parce que sinon, vous touchez, enfin, on touche pas, enfin, on n'engage pas le débat sur leur propre terrain.